Vous êtes sur le 106.8, Radio Grand Ciel Chartres, 7e volet de Du côté de la Pointe aux âmes, émission écrite et présentée par votre serviteur Robert Giroux. Aujourd'hui, un instrument à cordes que nous possédons tous, dès la naissance. Je vous en parle tout de suite. Simon est aux manettes, le son sera donc parfait comme toujours, à moi de ne pas trop bafouiller, je ne vous garantis rien. Mais d'abord, un grand bonjour à vous tous. Et si vous le voulez bien, mettons-nous en route immédiatement. Nous serions donc tous des instruments à cordes et l'on ne nous aurait rien dit. Image bien sûr, mais relativement exacte, partiellement exacte aussi, car nous pourrions tout aussi bien évoquer les claviers à mécanisme de soufflet, tels l'harmonium ou certaines orgues, ce par le mécanisme prodigieux de nos poumons. Le son en nous et son émission sont non seulement le fait du corps entier, mais aussi de sa conformation pour chacun de nous. Si la voix humaine est un instrument, et cela n'est pas douteux, nous possédons tous un instrument unique, intimement, personnellement lié à notre être profond, secret, ainsi qu'à nos propriétés et caractères physiques individuels. Personne ne possède un instrument défectueux ou faux. Ceux qui se persuadent d'avoir été floués par la nature de ce côté-ci, par exemple qui sont persuadés de chanter faux, m'évoquent ce que l'on dit de certaines guitares gardées sous clé, ne voyant jamais la lumière du jour et n'étant jamais jouées. Ces instruments-là perdent quelquefois leur voix, leur timbre. C'est alors irréversible. On dit alors que la guitare s'est refermée. La voix est donc faite pour être expulsée, pour sonner, être entendue et trouver son auditoire, provoquer des réactions. Les très jeunes enfants comprennent tous cela, qui font résonner haut et fort leur voix. Si cela peut gêner parfois, il faut cependant toujours considérer qu'une voix enfantine forte, très forte même, et désirant se faire entendre à tout bout de champ, est tout de même un très bon signe quant à l'éveil de l'enfant et à son désir de rencontrer le monde. J'aime les voix très timbrées, très expressives, très sensibles. J'ai un goût immodéré de la nuance, du sentiment et de la modulation dans le chant. J'aime aussi les voix qui disent des histoires, comme par exemple celle d'Irène Papaz, que nous entendrons ici nous conter les exploits des garçons Kolokotronei. Intrépide et sans peur, bravant le destin à chaque instant et semblant ne rien craindre sur terre comme au ciel. Ils étaient tellement pressés qu'on leur donnait la bénédiction à cheval. Ils ne connaissaient du soleil que le reflet dans les épées. Personnages de l'Antiquité, de cette Grèce que nous devrions tous considérer comme notre chair et notre sang et qui s'est trouvée si maltraitée récemment. Irène Papaz, les Kolokotronei.
Τα δεχόνται
Quelquefois, la destinée d'un peuple entier, d'une civilisation, se trouvera tout entière dans une voix, dans une chanson. Ou bien à l'opposé, dans cette chanson, se trouvera un sentiment tout simple, mais universel, que ressentira au même instant un gardien de troupeau en Palestine, par exemple, ou un businessman américain. Nous souffrons tous, nous aimons tous, et aucune forme d'amour n'est inférieure. L'amour ne démérite jamais. Il n'est ni un privilège ni un rite de passage. Il est une réalité humaine transmise de Dieu. Il est ou n'est pas. Et tous ceux qui aiment, sans la moindre exception, sont dans la lumière. L'amour a connu de superbes moments d'opéra, mais il y eut aussi Édith Piaf, Billie Holiday et nombre de chansons légères, désuètes en apparence, mais portant toute leur charge de vérité, de sincérité. L'usine à chansons de Broadway, que l'on nommait le Brill Building, était quasiment une usine destinée à disséquer, à retourner en tous sens le sentiment amoureux. On se mettait au travail d'écriture tôt le matin, paroliers et musiciens, et le soir venu, un bouquet de chansons nouvelles se trouvait sur la table, que l'on proposerait au chanteur du moment, dans l'espoir de croiser quelques mois plus tard son laitier venu livrer et qui sifflerait votre chanson. Activité assez noble dans le fond. D'immenses auteurs ont ainsi été révélés, de Jerome Kern à Irving Berlin, à Rodgers and Hart, en passant par les frères Ira et George Gershwin, qui sont mon choix d'aujourd'hui. Il est peu de chanteurs qui n'aient jamais chanté du Gershwin, y compris parmi ceux dont on le soupçonnerait le moins. J'ai choisi pour vous l'interprétation de Johnny Mathis, un premier choix de velours, comme on dirait au marché Saint-Pierre à Montmartre. Voix sophistiquée, soit, mais d'un total naturel, voix qui coule, voix articulée, boisée quand il le faut, laiteuse quand il le faut, un véritable gradus de l'intonation, de la maîtrise, du contrôle, de la conscience du chant. Paroles d'Ira Gershwin, musique de George Gershwin, aux guitares messieurs Tony Mottola et Al Caiola, Embraceable You, le divin Johnny Mathis.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy. I love all the many charms about you, above all I want my arms about you. Be
party, baby. Come to Papa, come to Papa, do. My sweet embrace of blue. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby. Come to Papa, come to Papa, do.
Le jazz jusqu'à aujourd'hui a produit de très grandes voix. Nat King Cole, Tony Bennett, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald. Ces quatre noms seulement suffiraient déjà à combler toute une vie d'esthète. Comme pour tout style de musique, il est passionnant d'aller y farfouiner dans les interstices, les fonds de ruelles ou de bacs de disquaires, là où la lumière est plus faible, où elle clignote un peu, mais brille d'un bleu unique. On y trouverait par exemple Johnny Hartman, chanteur de ballades sans égale, que John Coltrane adorait accompagner. Ou bien celle que je vous propose à présent, une voix d'autant de distinction et de détachement que d'implication et de vérité. Un chant qui est une respiration, vit sur le souffle et semble venir chercher le mot à la limite de son extinction, à la limite du silence. Elle ne déclame pas un texte, le texte ne s'impose pas par elle, mais paraît répondre à une injonction secrète, à une attraction. Le chant d'Hélène Merrill est une fête d'essence, et le grand Gil Evans, qui signe l'orchestration, lui déroule des tapis et des tentures de reine. Hélène Merrill, Troubled Waters.
Scandalous.
il est diverses acceptions de la notion de perfection. Je ne puis envisager ce mot et l'entendre qu'à l'échelle humaine, celle qui sous-entend toujours un meilleur possible. Être parfait à la lumière de ses possibilités, mais aussi à celle de ses aspirations. En cela, certaines formes de chant sont une élévation, une exhortation, mais nous offrent aussi d'entrevoir cet au-delà de nous-mêmes. Ce qui me paraît le plus éblouissant dans la voix que nous allons écouter est précisément son humanité, sa vérité, et cette façon qu'elle a de s'élever comme un papillon ou un oiseau rare devant lequel nous resterons ébahis, transportés de beauté. Son vol infiniment gracieux, la vérité et aussi la fragilité de sa présence, comme un moment que l'on voudrait faire durer toujours. Je vous propose d'entendre « L'épouse », tirée des poèmes pour mie d'Olivier Messiaen. Mélodie pleine de mystère et de retenue, qui, comme souvent chez Messiaen, sourd de l'intérieur, s'insinue plus qu'elle ne se proclame ou ne résonne à plein. Elle se place cependant sur des strates d'orchestre très pleines, très amples, très lumineuses. Ici, René Fleming apparaît dans toute son éblouissante maîtrise des durées, des volumes, du souffle. Elle se montre toujours glorieusement musicienne, comme dans les tenues où l'orchestre sinue autour de la fixité parfaite de sa voix pour y suspendre et laisser glisser de miroitantes et mouvantes coulées harmoniques. Elle se plonge littéralement dans l'orchestre. Elle donne l'impression qu'elle serait capable de faire entendre un soupir à peine audible au-dessus d'un orchestre déchaîné. Et rien n'est jamais outré, surchanté, si peu que ce soit. Tout est articulé, nuancé et vit sur une réserve incroyable de puissance et d'expressivité. Comme un soleil ou une lune au couchant ou au lever, l'astre n'éclipse jamais ce qui l'entoure, mais au contraire, lui donne sa lumière. Musique et chant sont ici l'expression du plus haut, l'épouse d'Olivier Messiaen, interprétée par René Fleming.
Thank you.
comme presque toutes les grandes voix passées ou présentes, c'est à l'église qu'Alfred Deller débutera le chant, dans sa paroisse de Margate, dans le Kent. Il apparaît très tôt que la voix d'Alfred est des plus singulières. Comme tous les jeunes garçons, sa voix est soprano, mais ses aigus sont tellement clairs, affirmés, qu'il peut sans effort chanter l'alto, apanage des voix féminines. Sa voix est donc très haute, mais également très souple, malléable, élastique presque, pourrait-on dire. À sa mue, la voix du jeune homme ne perd rien, elle gagnera même en souplesse. Il avait jusqu'alors reçu un enseignement classique, mais un peu rapide, simplifié, celui que dispensaient les paroisses. Il paraît à présent qu'il doit se mettre en recherche d'un enseignement qui prenne en compte sa particularité vocale. Alfred Deller est sans aucun doute une voix de contre-ténor. Or, cette voix et la forme d'art qui lui est dédiée sont tombées dans l'oubli depuis 2 siècles en Angleterre. Son enseignement n'existe donc plus. Deller décidera donc de se le créer, se fera chercheur, remontera les traces de la musique élisabéthaine. Et l'on peut raisonnablement penser que sa personnalité de pédagogue, d'enseignant, s'est forgée à cette époque. Entre-temps, il a rejoint les rangs du chœur de l'abbaye de Canterbury. C'est avec ce chœur que le grand Michael Tippett, compositeur anglais, remarquera Deller, il en était le soliste. Il lui fera faire ses débuts dans Purcell, à Londres, en 1943. L'émoi est alors grand chez l'auditoire, les critiques et les musicologues. Tippett a dit ce soir-là avoir senti le temps remonter son cours et lui faire redécouvrir Purcell, enfin, tel qu'il était, tel que personne ne l'avait encore entendu. Les modulations si fines, si naturelles de Deller sont incroyables, aisance sur le rythme, sa liberté, tout cela était tellement inattendu. De 1949 à 1961, Alfred Deller dirigera le chœur de la cathédrale Saint-Paul de Londres. En 1948, il formera le Deller Consort, ensemble de 5 ou parfois 6 voix. Il fait alors ses premiers enregistrements. Hormis la musique ancienne, Deller a du goût pour la musique contemporaine. Ainsi, Benjamin Britten composera-t-il pour lui le rôle d'Oberon dans son « Songe d'une nuit d'été ». Deller le chantera pour la première en 1960. Les critiques seront partagées. Certains se montreront dubitatifs, voire hostiles à son interprétation. Il lui semblera alors être lâché par la production. Il abandonnera le rôle au désespoir de Benjamin Britten, qui voyait en lui son seul interprète possible. Alfred Deller poursuivra son chemin. Épaulé du claveciniste Harold Lester ou de son fidèle Desmond Dupré, luthiste et guitariste, accompagnateur comme il en fut peu, avec lui il enregistrera une quasi-intégrale de John Dowland, la première à tous les sens du terme. Deller pensera aussi à se former une descendance, se créer des disciples. Il enseignera donc. Certains d'entre vous se souviennent peut-être avoir écouté James Bowman à la cathédrale de Chartres il y a quelques années. Eh bien, il fut l'élève de Deller. Aussi René Jacobs, Henri Ledroit, Gérard Laine. Sans oublier le maestro Jordi Savall, qui prit avec lui des leçons de chant. Durant les cours, Savall avait remarqué un phénomène curieux. La voix de Deller, si haute, si claire, si résonnante pour l'auditoire, devenait quasi inaudible lorsqu'on se trouvait à côté de lui. Il chuchotait littéralement. Il s'ouvrit de cet étonnement à Alfred Deller, qui lui répondit « Ma citation est très imparfaite, je m'en excuse. » Mais il lui répondit « Mais qu'aurais-je à forcer quoi que ce soit? Je connais les mots que je chante. J'ai toute foi en eux. Qu'irais-je forcer? Je ne suis ici que pour transmettre ce qui vit déjà. » Jordi Savall professera toujours son admiration. Il y sera rejoint par le regretté Nicolaus Harnoncourt ou bien El Supremo, Gustav Leonhardt. Alfred Deller ne travaillait pas quotidiennement sa voix. Il était hors de question pour lui de faire quelque vocalise que ce soit. Il préservait l'instant du concert, sa liberté, sa disponibilité totale, sa fraîcheur, chose qu'il estimait devoir primairement à son public. Une astreinte quotidienne déforme, crée un conditionnement et finit fatalement par parasiter l'interprétation. Nous parlons ici, soit bien entendu, d'un musicien parvenu à maturité et à excellence. Un jeune musicien se doit toujours de travailler, au jour le jour. Deller aura interprété Dowland, Purcell, Gesualdo, Bach, Buxtehude, Handel, Couperin, Britten, mais aussi la musique et le chant populaire anglais. Il a quitté notre monde en 1979, couvert de titres et d'honneurs. Il est temps à présent de l'écouter. Je vous dis à tous au revoir. Rendez-vous le mois prochain. Nous nous quittons avec la voix d'Alfred Deller. Il est ici seul dans Evening Prayer, la prière du soir, où vous verrez qu'en seulement une minute de temps, on peut accéder à l'infini. Merci à vous d'être fidèles à Radio Grand Ciel. À très bientôt. Au revoir.